VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 5 minutes. Carrefour en rediffusion avec Eric Manirakiza. Mais tout d'abord, les nouvelles. Cour pénale internationale de La Haye, l'Ougandais Dominique Ongwen était connu pour sa férocité, a affirmé ce mardi la procureure de la CPI à l'ouverture du procès de ce membre de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Les détails avec Nani Talani.
Dominique Ongwen, âgé de 41 ans, est non seulement le premier membre de la LRA, mais aussi le premier enfant soldat à être jugé par la CPI. Il est accusé d'avoir mené ou ordonné des attaques systématiques et généralisées contre des civils dans des camps de réfugiés. Il doit aussi répandre des mariages forcés, des fillettes enlevées et distribuées comme trophées de guerre, ainsi que des grossesses forcées. Selon des tests ADN cités par l'accusation, il serait le père d'au moins 11 enfants. La défense assure que M. Ongwen n'est qu'une victime de la LRA et souffre du stress post-traumatique lié à son passé d'enfant soldat. Le prévenu n'était qu'un enfant quand il avait été enlevé sur le chemin de l'école par la LRA. Pour la procureure Fatou Bensouda, ce passé n'est ni une justification ni une excuse. Ongwen a été promu rapidement pour sa loyauté au combat et sa férocité. Contrairement aux quelques 9000 personnes ayant fui les rangs de la LRA, Dominique Ongwen a choisi de rester et a enrôlé des combattants, y compris des enfants de 6 ans, soutient-elle. Les observateurs assurent que ce procès soulève de profondes questions sur les poursuites d'enfants soldats soumis à des années d'abus.
RCA, une enquête de l'ONU a permis d'identifier 41 casques bleus gabonais ou burundais de la mission de l'ONU en Centrafrique, soupçonnés d'avoir commis des agressions sexuelles dans la préfecture de Kemo en 2014 et 2015. Le point avec Nani Talani.
Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, l'enquête, qui a duré 4 mois, a recueilli des preuves contre 16 Gabonais et 25 Burundais de la MINUSCA sur la base des témoignages, par manque de preuves matérielles ou médicales, les faits étant trop anciens. Les 41 suspects qui ont déjà quitté la RCIA ont été reconnus à partir de photos et d'autres indices par 45 des 139 victimes potentielles, dont 25 mineurs. 83 n'ont pas été en mesure d'identifier leurs agresseurs ou de fournir des preuves probantes. 8 demandes en reconnaissance de paternité ont été faites, dont 6 par des mineurs. D'après M. Dujarric, l'ONU a transmis les noms des présumés responsables et réclamé que des poursuites judiciaires appropriées soient engagées. La réputation des casques bleus a été entachée par une série de scandales sur l'abus sexuel dans plusieurs pays, dont la RCIA.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, multiplication des attaques dans le nord et le centre du pays. Après l'attaque de la prison de Banamba il y a 2 semaines, ce matin, c'était le tour de la prison civile de Niono dans la région de Ségou. Pas de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les 5 bandits armés qui ont attaqué la prison civile de Niono ont contourné le dispositif classique pour surprendre les surveillants de prison. Les 5 bandits n'ont pas attaqué tous du même côté. C'est pour cela que 2 d'entre eux ont pénétré facilement l'intérieur de la prison en cassant les portes des cellules de fortune. C'est au cours de cette opération que 2 des surveillants de prison ont été blessés. 93 détenus se sont évadés, dont Dagaba Diko, poursuivi pour détournement de 47 millions de francs CFA. Des assaillants sont partis avec 2 motos appartenant aux surveillants de prison. L'armée malienne venue à la rescousse a pu capturer 3 évadés. 48 heures avant cette attaque, des combattants du MNLA basés à Tabangor, à 20 km à l'ouest de Goundam, ont fait incursion dans la foire hebdomadaire d'Echelle. Ils ont imposé le paiement des taxes aux forains. Ces derniers n'ont pas accepté. Les malfrats ont tiré à coups de feu pour intimider les forains. Les combattants de Gandakoué de la zone ont voulu s'interposer, mais ils ont été agressés par les combattants du MNLA qui ont blessé 2 d'entre eux et retiré 2 armes et 2 motos avant de s'éclipser sans inquiétude dans la nature. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et vous terminez présidentiel demain au Ghana. Un supporter du principal parti d'opposition a été tué dans des violences en marge d'un meeting électoral dans le nord-est du pays. Il y a aussi 14 blessés, annonce la police ce mardi. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de Carrefour. Eric Manilakis en votre compagnie. Aujourd'hui, Carrefour se focalise sur la déforestation Madagascar notamment.
Pour pouvoir avoir davantage de terres, ils ont pour habitude de défricher la forêt, donc de réduire les couverts forestiers, ce qui conduit naturellement à terme à mettre en péril les ressources naturelles dont ils dépendent.
Guillaume Chiron est spécialiste de la biodiversité. Il nous expliquera ce qui se passe dans l'île de Madagascar au chapitre du changement climatique. Vous allez comprendre que les ouragans sont mieux anticipés, mais gardent leurs secrets. Nous irons aussi à Port-au-Prince. Haïti comptabilise le plus de dégâts des dernières catastrophes naturelles. Et surtout, découvrons ensemble que les oiseaux chantaient déjà à l'ère des dinosaures. Bienvenue à tous. L'homme a été doué de raison et de force créatrice afin de multiplier ce qui lui a été donné. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait que détruire. Il y a de moins en moins de forêts, les rivières se dessèchent, le gibier disparaît, le climat se détériore. De jour en jour, la terre devient de plus en plus pauvre et de plus en plus laide. C'est le constat de Anton Tchekhov. Et dans Carrefour d'aujourd'hui, nous jetons un autre regard sur ce qui se passe au Madagascar. La forêt se fait rare dans l'île. Les populations riveraines des parcs forestiers sont tombées dans le cercle vicieux de brûler davantage de forêts pour de nouveaux espaces agricoles. Une solution qui ne peut plus durer, sauf à accorder une chance au reboisement mené sous l'impulsion de ONG française. Nanit Talani.
Il y a 10 ans, il y avait encore des forêts sur la moitié des flancs de montagne, dont la commune rurale de Rano Mafana, qui regroupe 22 000 habitants éparpillés sur plusieurs hameaux. Aujourd'hui, les habitants subissent de plein fouet les conséquences de leurs pratiques. Avec la déforestation, les cours d'eau des montagnes sont à sec et ne peuvent plus irriguer suffisamment les cultures des plaines, poussant les villageois à déboiser encore davantage pour trouver des terres fertiles. Plusieurs ONG, en partenariat avec l'Agence française de développement notamment, pilotent un programme de conservation des forêts dans la région. Lancé en 2008, ce projet de 4 millions d'euros a notamment permis de créer dans une vingtaine de villages du sud de la Grande Île des communautés de base, COBA, pour délimiter des centaines d'hectares de territoire où toute déforestation est rigoureusement interdite. Sans la forêt, ce sont toutes les facettes de la vie des agriculteurs qui vont disparaître, explique Mathieu Bayrel de l'ONG Etc. qui coordonne le programme. Si on ne protège pas les forêts en amont, la productivité agricole diminue en aval. Une fois que ce lien est fait dans la tête des gens, c'est plus facile d'agir là-dessus, plaide Hélène Gobert, chargée des projets développement rural et environnement à l'AFD à Madagascar. Plusieurs projets accompagnent aussi les COBA, à la fois pour proposer des alternatives agricoles et améliorer les conditions de vie grâce par exemple au reboisement. La forêt, déjà victime des pratiques agricoles, est aussi une cible de choix pour les villageois qui exploitent le bois. En quelques coups de machette, Mamonji entretient le bosquet d'acacia et eucalyptus replanté dans son village en 2012. Grâce à ce reboisement, on ne va plus se servir dans la forêt pour notre charbon ou notre bois de construction, se félicite-t-il. Un arbre, ça met du temps à pousser, donc les effets ne sont pas visibles à court terme. On a besoin de projets qui durent longtemps pour espérer des changements de pratique, note Hélène Gobert. Le message commence à passer et on commence à en voir des effets. Mais ce sera long car on parle de changement de mentalité sur les pratiques parfois millénaires, ajoute Mathieu Bayrel. Les défis demeurent titanesques à l'échelle de ces territoires aussi grands que la France, où plus de 9 malgaches sur 10 vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Tout à fait, Nanit. La pauvreté constitue un défi majeur dans la protection de la forêt. Guillaume Chiron, spécialiste de la biodiversité à l'Agence française pour le développement, nous parle de l'impossible équation des paysans de Madagascar qui brûlent la forêt pour survivre.
On peut comprendre par là que les paysans malgaches ont besoin de davantage de terres pour pouvoir